Un peu moindre qu'un dieu, Bible et conditions humaines. Voici la première partie d'une conférence de Mgr Pierre de Berger, recteur émérite de l'Institut catholique de Toulouse. Mgr Pierre de Berger présentait son ouvrage paru aux éditions Bayard et intitulé « Un peu moindre qu'un dieu, Bible et conditions humaines ». À partir d'une étude avancée des textes bibliques, Mgr Pierre de Berger présente les réponses qu'apporte la Bible à différents sujets de débat et controverses contemporains, les différences sexuelles, la liberté, l'exercice du pouvoir, la domination de l'argent, la fraternité universelle. Un peu moindre qu'un dieu, Bible et conditions humaines, voici donc la première partie de cette conférence de Mgr Pierre de Berger.
Voilà, ce livre, Un peu moindre qu'un dieu, Bible et conditions humaines, il est né d'une conférence. Je donnais une conférence il y a 2 ans, de 2 ans et demi, et une personne m'a interrogé en me disant « Mais est-ce que la Bible s'intéresse à ce que nous vivons ? Est-ce que la Bible s'intéresse à ce que nous vivons ?» Alors c'est vrai que la question m'a assez surpris, parce que bon, moi j'étais assez convaincu, évidemment, qu'elle a un certain évident rapport avec ce que nous vivons. Mais la personne, manifestement, qui posait cette question, considérait que, bon, l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et le Nouveau Testament, il y a le message de Jésus sur l'invitation à s'aimer, aimer son prochain, aimer Dieu. Mais que pour le reste, la Bible n'avait pas pour nous de grand intérêt. Et c'est cette interrogation, voilà, à l'occasion d'une conférence qui m'a donné, envie, plus qu'envie, qui m'a fait naître le désir de publier un ouvrage modeste, mais qui puisse un peu rendre compte de cela, rendre compte de ce que la Bible a évidemment à voir avec la condition humaine. Elle a à voir avec la condition humaine. Alors, c'est vrai qu'elle a été rédigée par des hommes et des femmes qui vivaient dans un contexte différent du nôtre, évident. On est avant, voilà, on est il y a plus de 2000 ans, pour certains textes, plus de 3000 ans, voilà, plus de 3000 ans. Donc les conditions culturelles ne sont pas les mêmes, les contextes sociologiques ne sont pas les mêmes, Et pourtant, ce livre, d'abord, certes, il nous parle de Dieu. C'est vrai que la Bible nous parle de Dieu. Elle est révélation. Un Dieu qui vient à la rencontre des hommes. Mais parce que ce Dieu vient à la rencontre des hommes, la Bible, elle est aussi révélation sur l'homme, l'être humain, si vous préférez. Autrement dit, en même temps qu'elle nous parle de Dieu, à la lumière de ce qu'elle nous dit de ce Dieu, elle nous dit ce qu'est l'être humain. Et c'est cela qui est important. Il y a une vérité sur Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui nous est révélée, et en même temps, il y a une vérité sur ce qu'est l'être humain, qui il est, qui nous est révélé. Et l'un et l'autre sont inséparables. Parole de Dieu, elle est parole sur l'homme, je dirais pour l'homme, pour l'être humain, l'homme et la femme. Et j'ajouterai, quels que soient les contextes historiques, quel que soit voilà, le monde dans lequel on vit. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'à la lecture, au fond, voilà, de ces livres qui constituent la Bible, on découvre que finalement les questions des hommes et des femmes d'hier sont celles d'aujourd'hui. Nous nous posons les mêmes questions. Il y a la question de l'altérité, la différenciation sexuelle. Bon, on va le voir, elle apparaît dès les premiers récits de la Bible. Il y a la question de la liberté, la question de la fraternité, la question du pouvoir, j'en dirai quelques mots quand même. C'est une question essentielle. Et vous allez voir qu'elle est prégnante, elle fait vraiment, est un élément important de la révélation biblique. La question du rapport au bien matériel, la question de l'amour, la question de la mort, la question de la souffrance, ce sont des questions intemporelles. Elles sont de toujours. Et je disais hier soir, puisque je donnais une petite conférence à Pau hier soir, mais peut-être que je me trompe, je disais que finalement, les conditions culturelles peuvent changer. L'être humain, d'une certaine manière, il ne change pas. Le contexte dans lequel il vit change. Mais les êtres humains sont toujours et seront toujours confrontés aux mêmes questions. Vous savez, je vais vous prendre un exemple, alors ce n'est pas tiré de la Bible, mais j'en dirai un petit mot après, c'est par rapport aux richesses. Vous allez voir, ce n'est pas un texte de la Bible, mais pour vous dire que finalement, on se dit que les interrogations sont un peu toujours les mêmes. C'est Sophocle qui, dans Antigone, parle de l'argent. J'en dirai un mot après. Vous allez voir que ce qu'il écrit, peut-être que, d'une certaine manière, pourrait l'écrire tout à fait aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit Sophocle, ce qui montre bien que les questions n'ont pas changé. Rien n'a comme l'argent suscité parmi les hommes de mauvaises lois et de mauvaises mœurs. C'est lui qui met la discussion dans les villes et chasse les habitants de leur demeure. Bon, 31 mars, c'est pas loin, on évoquait la fin, mais au fond, de la protection pour certains qui, donc avec la possibilité d'être expulsés. Déjà, à cette époque-là, on évoquait l'argent qui chasse les habitants de leur demeure. C'est lui qui détourne les âmes les plus belles vers tout ce qu'il y a de honteux et de funeste à l'homme, et leur apprend à extraire de chaque chose le mal et l'impiété. On pourrait penser qu'à l'époque de Sophocle, l'argent était peut-être moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et pourtant, vous voyez bien, c'est les mêmes constats, c'est les mêmes questions pour évoquer d'autres textes, là, qui ne sont pas des textes bibliques. Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est autour de trois problématiques. Peut-être la différenciation sexuelle, le pouvoir, l'argent, voilà. De voir comment la Bible peut nous rejoindre dans les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui. Sachant en même temps que la Bible n'apportera pas de réponse aux questions que nous nous posons. Il n'y a pas de réponse. La Bible n'est pas un livre de recettes. Ce dont elle nous parle fondamentalement, c'est du salut. C'est de la vie avec Dieu et en Dieu. C'est de l'expérience, voilà, de ce Dieu proche, proche, qui accompagne son peuple, qui accompagne l'humanité, qu'il donne sa loi, parce qu'il nous veut heureux, mais voilà, pas de réponse directe, je dis bien, aux questions d'aujourd'hui. Pas de recette, pas de solution, simplement et fondamentalement un éclairage qui constitue en même temps ce qu'on pourrait appeler une anthropologie biblique. Il y a une certaine vision de la personne humaine dans la Bible, et de la vision de cette personne humaine va, par le fait même, découler une certaine conception du rapport au pouvoir, du rapport à l'argent, du rapport au travail, du rapport aussi à la souffrance et à la mort. Voilà. Mais tout cela, bien sûr, est intimement lié à la révélation que Dieu, à travers son Fils, nous célébrerons cela tout au long de la semaine prochaine, nous fait de ce qu'il est, lui. Alors, pour introduire notre échange, Je voudrais tout simplement évoquer avec vous le premier chapitre du premier livre de la Bible, à savoir le livre de la Genèse. C'est le tout début. C'est le tout début. Vous savez que ce premier chapitre n'est pas nécessairement le livre ou la partie même du livre de la Genèse qui est la plus ancienne. Voilà. On pourrait penser, j'ouvre la Bible, donc je tombe sur le livre le plus ancien et le passage le plus ancien. Non, voilà. C'est un passage relativement récent qu'on situe au VIe siècle de notre ère. Mais là aussi, lorsque les rédacteurs, les compilateurs du Pentateuque décident de mettre ce chapitre voilà, au tout début de la Bible, ils ne le font pas, je dirais, de manière anodine. C'est qu'ils considèrent que nous avons là un porche d'entrée sur l'ensemble de la Bible, et peut-être pas uniquement sur l'ensemble de la Bible, un porche d'entrée qui nous introduit dès le début sur le dessein de Dieu sur l'homme. Alors vous connaissez ce chapitre-là, c'est la création en 7 jours, avec au verset 26, ce fameux verset, Dieu dit, faisons, il faudrait dire l'humain plutôt que l'homme, faisons l'humain à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, l'humain, l'être humain, à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Alors qu'est-ce qui apparaît là? Ce qui apparaît dans ces quelques versets, c'est la grandeur de l'être humain. Grandeur de l'être humain dont on pourrait dire qu'il est le fleuron des créatures de Dieu. Dans ce premier récit, c'est au terme de son travail de création que Dieu le crée. Il y a cette délibération que l'on prête un petit peu à Dieu. Les pères de l'Église y verront déjà la Trinité. Dans la littérature rabbinique, on y verra Dieu interroger le monde céleste. Voilà. Plus simplement, on pourrait y voir une manière de solenniser la création de l'être humain. Solennité de la création, on ne dit rien sur le processus de création dans ce récit, mais ce que l'on dit, c'est ce qui va caractériser l'être humain, à notre image, comme notre ressemblance. Voilà. Aucune autre créature divine, d'une certaine manière, ne bénéficie de cela. L'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis vient immédiatement après un « et qu'il domine ». Alors ce qui est toujours intéressant, mais ça vous ne l'entendez pas, c'est que dans le texte c'est un pluriel. « Qu'il domine ». L'être humain, c'est pas « qu'il ». Donc évoquer l'être humain, c'est évoquer un pluriel. « Qu'il domine ». Le texte qui va suivre la suite précisera cela. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Et déjà on perçoit qu'il y a un lien entre la création de l'être humain, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ce que j'appellerais une vocation au pouvoir. Je parle d'une vocation. Vocation au pouvoir qui s'inscrit dans le cadre de cette image et de cette ressemblance de Dieu. Comme si c'était dans cette vocation qu'il reçoit, vocation à dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes et tout sauvages et toutes les bestioles, que l'être humain, d'une certaine manière, allait vivre. cette vocation, cette spécificité qu'il a d'être image et ressemblance de Dieu, comme s'il y avait un lien entre les deux. Il est image et ressemblance de Dieu, et bien cette image et cette ressemblance, elles vont se traduire par la mission, la vocation qu'il reçoit, qui est de dominer. Alors c'est un pluriel. La suite, Dieu créa l'humain à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Et évidemment, qu'est-ce qu'on perçoit ici? On perçoit que la différenciation sexuelle est un élément constitutif de l'être humain. En tous les cas, elle apparaît dans la Bible comme un élément constitutif. Penser l'être humain, c'est le penser homme et femme. Penser l'être humain image et ressemblance de Dieu, c'est le penser en tant qu'il est homme et en tant qu'il est femme. La suite, Dieu les bénit et leur dit. C'est la première fois que dans le texte biblique, voilà, on voit Dieu s'adresser à l'une de ses créatures. La première fois. Et d'une certaine manière, on voit que la parole qui surgit ici est une parole qui s'adresse. Jusqu'alors, Dieu avait dit, et ce qu'il avait dit s'était réalisé, sans qu'il s'adresse directement à sa créature. Ici, il s'adresse. Il les bénit, leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Je continue. Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences. » qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Vous aurez noté qu'il n'y a pas de nourriture animale pour l'être humain. Nourriture végétale. La nourriture animale, elle viendra après. Elle viendra comme une concession que Dieu semble faire à l'être humain. C'est après le déluge. Déluge qui naît de ce que Dieu a constaté que la violence emplit la terre. Et Dieu, à ce moment-là, projette d'anéantir la terre. Puis il y a l'épisode de Noé, puis il y a Dieu qui se reprend un petit peu. Mais qui va concéder aux êtres humains le fait qu'ils pourront désormais manger de la viande, à condition bien sûr de ne pas boire le sang. Dans ce premier récit de création, le déluge c'est après le péché. Dans ce premier récit de création, il n'y a pas de nourriture animale. Il y a voilà, un monde où il n'y a pas de violence. C'est un monde paisible, c'est un monde pacifique. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour, ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son travail de création. Déjà, nous avons donc l'être humain qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être humain, il est en tant qu'il est homme et femme, voilà, et on insiste de fait sur une différenciation qui est constitutive de l'être humain. Cette différenciation, on la retrouvera dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, qui évoque un autre, qui lui évoque, plutôt a été rédigé à une autre époque, peut-être antérieure d'ailleurs, à celle du récit que nous venons de voir. Et là, on verra, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais la juxtaposition des textes est intéressante. Celui-là est sans doute plus récent que le chapitre 2, qui est plus ancien, mais on verra que, ici, alors que Dieu dit que tout était très bon, dans le deuxième récit de création, on verra Dieu dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ouais, ». C'est la première fois qu'on voit « Il n'est pas bon ». Jusqu'alors, tout était très bon. La juxtaposition, vous voyez, n'est jamais neutre. Et là, on verra Dieu dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » je vais lui faire voilà, une aide qui lui soit assortie. Le texte n'est pas très très bon. Il y aura bien les animaux, mais les animaux voilà, ne satisferont pas l'Adam qui semble être anonyme, ça encore jusqu'alors, jusqu'au moment où Dieu va construire une femme. Le texte hébreu dit construire une femme à partir de la chair, voilà, à partir de la côte, mais en dehors de l'homme. Ce qui sera une manière aussi d'insister sur la différenciation des deux. La différenciation construit sans doute de même chair, mais n'habitant pas pour autant de la même manière cette chair, ce sur quoi insiste le texte biblique. Et puis on verra aussi à l'être humain confier la vocation de cultiver la terre, de cultiver le jardin et de le garder, avec des nuances très très belles, puisqu'en hébreu c'est le même mot qui dit cultiver et rendre un culte. Autrement dit, comment en cultivant la terre, on rend un culte à celui dont on reconnaît que tout lui appartient. Mais si je reviens donc à notre premier texte, image, ressemblance de Dieu, différenciation sexuelle, vocation au pouvoir. Pour moi, je dois dire que c'est un élément important. Il y a inscrit au cœur de l'être humain, je dirais de tout être humain, une vocation à poursuivre l'œuvre de création. C'est tout être humain qui va, par cette capacité, cette vocation au pouvoir qui lui est donnée, à dominer, c'est tout être humain qui va donc, voilà, être appelé et est appelé à poursuivre l'œuvre de création, mais pas n'importe comment. Et c'est là qu'on voit que cette vocation au pouvoir qui est inscrite au cœur de l'être humain, c'est une vocation qui est inscrite certes en lui, mais à condition que sa manière d'exercer le pouvoir soit à l'image de celle de Dieu. Comprenez, c'est ça qui est en jeu. Il ne s'agit pas d'une seigneurie toute puissante ou d'une tyrannie qui ferait que l'homme pourrait exercer sur les bêtes des champs, les animaux, voilà, un pouvoir qui serait un pouvoir tyrannique. Non, c'est dans sa manière d'exercer le pouvoir sur la création que l'être humain engagera son identité d'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est là que le texte est important, parce qu'au fond, quand on regarde ce premier récit de création, ce que l'on voit, c'est que lorsque Dieu crée, il n'utilise jamais la violence. Il crée par la parole. En même temps qu'il crée par la parole, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il sépare. Il sépare firmament du ciel, du firmament des eaux. Il fait surgir la lumière des ténèbres. Il fait surgir la vie. Donc, une création où la toute-puissance de ce Dieu créateur est une toute-puissance qui se révèle déjà comme pacifique, n'usant pas de la violence, mais étant au service de l'épanouissement, de la mise en ordre de ce qui était un chaos primitif, d'un épanouissement aussi de l'œuvre qui est la sienne. Autrement dit, que nous dit ce texte? Que si une vocation au pouvoir est inscrite au cœur de l'être humain, voilà, cette vocation au pouvoir, l'être humain ne peut l'exercer qu'en servant la création qui lui a été confiée. Il n'en est pas le maître. Elle lui a été confiée pour qu'il poursuive l'œuvre de Dieu. Et pour qu'il poursuive cette œuvre, dans un souci de mise en ordre, d'épanouissement, de service de la vie. Pas de violence. Alors certains auteurs se sont interrogés, et je pense notamment à un auteur qui s'appelle Paul Beauchamp, décédé maintenant il y a quelques années de cela, et qui s'est interrogé sur pourquoi cette nourriture végétale? Et pourquoi pas de nourriture animale? Je vous l'ai dit, la nourriture animale, elle viendra bien après. Alors bien sûr, on pourrait en rester ce que l'on s'est dit. Voilà, c'est une domination qui devra s'exercer sur le mode même de la manière dont Dieu domine. Voilà, c'est-à-dire par pacifiquement, en servant, en œuvrant à l'épanouissement, mais jamais, jamais en faisant appel à la violence. Alors, un auteur, j'aime bien cette image. Cet auteur qui s'appelle Paul Beauchamp dit, mais finalement, quelque part à travers cette invitation à se nourrir uniquement de nourriture végétale et non de nourriture animale, bien sûr, qu'est-ce que l'on voit là? Pour moi, c'est une question. On voit la relation privilégiée qu'il y a entre l'animal et l'homme. Il y a une relation privilégiée. Vous savez que dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, quand on évoquera l'ère messianique, qu'est-ce qu'on évoquera? On évoquera comme une réconciliation. Voilà. Entre c'est l'enfant qui mettra sa main sur le nid du cobra. C'est aussi une réconciliation au sein du monde animal. Le bœuf et le taureau et le lion, je ne sais pas, paîtront ensemble. On fait appel aussi au monde animal pour évoquer une réconciliation. Donc on pourrait aussi déjà penser cela. Mais cet auteur va plus loin et dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette invitation initiale à ne pas user de nourriture animale comme une invitation à devenir le pasteur de sa propre animalité. Devenir le pasteur de sa propre animalité. On va le voir par la suite. On va le voir par la suite. L'être humain a une dimension animale. Et on va voir que juste après, ce texte est intéressant pour ce qu'il nous dit aussi de la condition humaine et de la violence qui peut être inscrite au cœur de l'être humain. Donc finalement, à travers ce texte, ce premier texte qui ouvre la Bible comme une invitation à dire finalement, pour exercer pleinement la domination à laquelle nous sommes appelés, le pouvoir que nous devons exercer, il faut commencer par devenir le pasteur de sa propre violence, devenir le pasteur de sa propre animalité. Voilà. À cela, j'ajouterai un élément qui n'est pas sans actualité, c'est la suite du récit. Création de l'être humain, vocation à dominer, qu'il domine, en même temps, soyez fécond, vocation à la fécondité. L'être humain participe, voilà, participe aussi de la vie même de Dieu, puisqu'il contribue lui-même à donner la vie. Et la suite est importante, c'est le Shabbat. Dieu s'arrête. Septième jour, conclut l'ouvrage qu'il avait fait. Et au septième jour, vous savez qu'il avait fait, dans l'hébreu d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est l'ouvrage qu'il avait fait, la hasot pour faire. Alors on s'interroge, mais pourquoi l'ouvrage qu'il avait fait pour faire? Et certains auteurs, comme André Vénin, disent, mais peut-être que derrière ce pour faire, il y a l'idée que c'est l'ouvrage qu'il avait fait pour qu'il soit poursuivi par les hommes, pour que l'humanité continue, pour que l'humanité poursuive. Et au septième jour, il chôma, après l'ouvrage donc qu'il avait fait, toujours pour faire. Dieu bénit le septième jour, le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Qu'est-ce qui est intéressant? Cet arrêt de Dieu va devenir dans la Bible le fondement d'un commandement fondamental. Tu t'arrêteras, tu cesseras tout travail, le septième jour, le jour du Shabbat, toi, ton bœuf, ta servante, tous ceux qui sont à ton service. Donc, là aussi, il me semble qu'il y a quelque chose d'important. On nous dit à la fois que pour que l'être humain puisse exercer le pouvoir qui est le sien et auquel il est appelé et auquel tout être humain est appelé, il faut que d'une certaine manière, d'abord, j'ai oublié de le dire, mais c'est un pouvoir qui concerne l'homme et la femme. concerne pas simplement l'homme. C'est l'homme et la femme qui sont invités à poursuivre l'œuvre de création, sans doute avec cette conviction, en tous les cas qui est la mienne, que de la même manière que nous n'habitons pas de la même façon la chair qui nous est commune, le pouvoir, nous ne l'exercerons pas de la même manière, selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme. Et c'est peut-être pour cela qu'il est dommage ou dommageable que parfois, d'abord qu'il y ait peut-être pas assez de femmes qui exercent le pouvoir, ou que quand on leur demande de l'exercer, on leur demande de l'exercer comme des hommes. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre réflexion qui pourrait nous conduire ailleurs. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce pouvoir qui doit être exercé, on voit bien, personne ne doit l'accaparer. C'est un pouvoir que nous recevons ensemble. Et donc, il faudra, on va le voir après, je vous donnerai un exemple, il faudra que celui qui a un pouvoir particulier ou plus important, il ait la préoccupation de faire que chacun, à la place qui est la sienne, puisse l'exercer. Il nous est quand même indiqué que pour que ce pouvoir puisse être exercé pleinement et à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faudra aussi peut-être lutter contre l'animalité qui est en nous. Il faudra faire en sorte que cet exercice du pouvoir ne s'accompagne pas d'usage de la violence. Parce que ce n'est pas un pouvoir tout-puissant. Le seul qui est un pouvoir tout-puissant, si je puis dire, et c'est encore que cette toute-puissance est paradoxale, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Mais le repos du septième jour est aussi important. Pourquoi cet arrêt? Bien sûr, pour prendre du recul, pour mettre un frein peut-être à l'activisme, pour mettre un frein à la toute-puissance qui nous menace, pour permettre aussi à celles et ceux dont on a la responsabilité de pouvoir s'arrêter. C'est pour cela que dans la Bible, ce n'est pas anodin. Ce commandement du repos, il aura deux fondements. Dieu qui s'est arrêté, mais la libération d'Égypte. Et donc on voit aussi dans cette nécessité de s'arrêter une dimension salvifique. Voilà. Pour bien exercer le pouvoir et la responsabilité que l'on a, et ne pas sombrer dans la toute-puissance ou dans l'activisme. Il faut s'arrêter, prendre du recul, et ce n'est pas neutre. Si on s'arrête, c'est pour Dieu, pour consacrer ce jour à Dieu, pour le prier, c'est pour aussi un temps de gratuité, et c'est pour lui redonner tout ce que l'on a fait, de telle sorte qu'il puisse donner toute sa fécondité au travail de nos mains. Voilà. Donc, vocation au pouvoir qui concerne l'homme et la femme, qui sont image et ressemblance de Dieu, qui font de la dignité de l'être humain, appelé à poursuivre la création de Dieu, création qui lui a été confiée, mais une poursuite de l'œuvre de la création qui ne pourra se faire que dans la mesure où l'homme se considérera dépositaire et non propriétaire, qu'il œuvrera, je dirais, de méthode, pour dire, non violente, non tyrannique, car il s'agit aussi de respecter la création, et qu'il saura s'arrêter pour prendre du recul et pour redonner. Pour moi, c'est un point fondamental. Quand on s'arrête, on confie à Dieu l'œuvre de ses mains, on le lui confie pour qu'il lui donne toute sa fécondité. C'est lui qui donne toute sa fécondité au travail qui est le nôtre. C'est pour ça aussi qu'il est important de s'arrêter, prendre du recul. En même temps, si on regarde les récits de création, on voit bien que l'arrêt est un temps où on peut aussi évaluer ce que l'on a fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà, on peut discerner. Voilà déjà ce que ce premier récit nous dit, un peu de la condition humaine. Le deuxième récit. Je ne vais pas rentrer sur les détails du deuxième récit. Peut-être simplement un élément qui, pour moi, est un élément fondamental, c'est la création de la femme. Vous savez qu'on dit toujours « je vais lui faire une aide qui lui soit assortie », puisque voilà, l'homme donna des noms à tous les bestiaux, chapitre 2, verset 20, à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Une aide qui lui fut assortie. Le texte grec, le texte hébraïque, pardon, ne parle pas, à mon sens, d'aide. C'est ézer kenegdo, c'est un secours. Ézer, en hébreu, c'est un secours. Autrement dit, l'homme, qui jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, n'a pas parlé, il n'a pas parlé dans le deuxième, dans le récit de création, l'homme ne parlera que face à celle dont il dit qu'elle est l'os de ses os et la chair de sa chair. Mais ce n'est pas parce qu'elle est l'os de ses os et la chair de sa chair qu'elle lui est totalement semblable. Ce sera un peu la difficulté de concilier la similitude et la différence, voilà, qui sont constitutives. Donc, les Ézer, c'est un secours. Pour exister pleinement, l'homme, l'Adam, on va dire, il a besoin d'une autre que lui. C'est ça que dit le texte biblique. Un secours qui sera face à lui, qui sera un peu vis-à-vis, en vis-à-vis. Et là, je trouve que le texte biblique est aussi très, très riche. Il nous dit que finalement, pour que l'être humain puisse pleinement exister, il a besoin de se trouver face à un autre que lui, un autre que lui, auquel il va se confronter, qui va aussi être une alliance, qui pourra être un jour alliance, mais qui pourra être aussi l'autre que lui auquel il va se confronter. Et c'est en ce sens-là que la femme est un secours. Elle est ici présentée comme un secours, on pourrait dire un salut. Alors on connaît la chanson « La femme est l'avenir de l'homme ». Mais il y a quelque chose de cela dans le texte biblique. Et c'est d'autant plus étonnant, il faut être clair, que celles et ceux qui écrivent ces récits-là, ils vivent dans un monde où la femme est quand même considérée comme seconde, hein, comme seconde. Mais on perçoit que le dessein de Dieu, il est autre. C'est ça que je voudrais faire comprendre. On perçoit d'ailleurs ces premiers récits de création, ils ne nous parlent pas simplement d'un paradis perdu. Ils nous parlent de l'humanité telle que Dieu la veut ou telle qu'il la voudrait. Et c'est, pour moi, c'est une dimension un peu intemporelle. C'est de toujours. C'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu. C'est pas un paradis, c'est pas une question d'un paradis perdu. C'est vers là qu'il faut que nous allions. C'est de là que nous sommes venus, c'est de là qu'il faut que nous allions. Et c'est ce qu'il nous faut peut-être aussi essayer de vivre aujourd'hui. Alors, vous avez « c'est l'os de mes os et c'est la chair de ma chair », et puis la suite. Et là, je trouve que le troisième chapitre du livre de la Genèse est aussi extrêmement riche comme enseignement, et je dirais même comme sagesse. Ce sont des récits qui sont pleins d'une grande sagesse. Vous le savez, c'est le récit de la chute. Et la manière dont le travail du serpent est décrit dans ce troisième chapitre, et me semble-t-il, d'une très grande actualité, il est de toujours. Que fait le serpent ? Vous connaissez le texte. Le serpent, il va jouer à partir à la fois de la liberté de l'homme, il y a une liberté de l'homme, et de la fragilité de l'être humain. Parce que la liberté, quelque part, elle nous rend grand, c'est la grandeur de l'être humain que d'être libre, mais en même temps, elle nous fait vulnérables. Et c'est pour ça que Quoi qu'on peut dire, en tous les cas, j'ai intitulé un de mes chapitres « L'épreuve de la liberté ». Parce que je crois que la liberté est une épreuve. Est une épreuve. Dans le deuxième récit, vous le savez, de création, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui donne aux êtres humains, il leur dit, voilà, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, du fruit de l'arbre, vous n'en mangerez pas. C'est là que se situe la liberté. La liberté, ça va être dans la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir. D'enfreindre l'interdit, de ne pas l'enfreindre. Voilà. Mais c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain. Et je pense que c'est là que se situe l'être humain. Ce qui fait l'être humain, c'est sa capacité en toute liberté et connaissance de cause d'enfreindre ou de ne pas enfreindre l'interdit de Dieu. C'est pour ça que cette épreuve, elle est fondamentale. Il y a des pères de l'Église, d'ailleurs, qui dédramatiseront le péché d'Adam et Ève en disant, bon, mais n'empêche que c'est là que ce qui constitue l'être humain, c'est ça. C'est connaissance de Dieu et relation à Dieu, connaissance du dessein de Dieu avec cet interdit et décision d'enfreindre ou de ne pas enfreindre. Et c'est là que le serpent va intervenir. Il va intervenir précisément au niveau de la liberté de l'être humain. Mais pour cela, il va rejoindre ce qui pourrait être une des fragilités de l'être humain. Fragilité. Que fait le serpent? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il ne dit pas, alors Dieu vous a donné de tous les arbres, mais il vous a dit qu'il ne fallait pas... Non, il occulte totalement le don de Dieu. Il occulte le don de Dieu, il focalise le regard de la femme, entre parenthèses, qui n'est pas Ève. Ève, elle aura son nom à la fin du récit. Si on regarde ce récit, on dit la femme. Et quand Adam donnera à Ève son nom à la fin, ce sera... À mon sens, c'est un nom qui est plein d'espérance. Ici, donc, voilà, la femme. La femme répondit, nous pouvons manger du fruit. Donc, elle répond, mais non, on peut manger du fruit. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Bon, Dieu n'a pas dit exactement cela. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous voyez, le jeu du serpent, qui n'est pas que d'hier, hein, c'est de focaliser le regard sur l'interdit, on occulte le don, on occulte tout ce qui a été donné, on ne voit que ce qui manque, et à partir de là, le serpent va beaucoup plus loin, puisqu'il va induire, près de l'homme et de la femme, l'image d'un Dieu qui est un Dieu mesquin, d'un Dieu qui aurait trompé. Il vous a dit cela, mais c'est faux. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Et là, vous voyez la tension qu'il y a entre se reconnaître image de Dieu, ressemblance de Dieu, et vouloir être comme des dieux. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Autrement dit, je ne me contente pas d'être image et ressemblance de Dieu. Je ne me contente pas de savoir que je peux manger de tous les arbres qui sont... Non, je veux tout. Et le serpent rejoint l'être humain un peu, peut-être dans... C'est là que se situe la liberté. L'interdit est ce qui permet aussi de jouir ou de profiter de tous les arbres du jardin dans la reconnaissance, c'est vrai aussi, que ces arbres, ils nous ont été donnés, mais qu'ils ne nous appartiennent pas. Franchir l'interdit, ce qui est ici le cas, c'est franchir la limite qui fait qu'on ne veut plus, ou on ne se contente pas, ou l'on ne consent plus au fait d'être créature, parce que ce que l'on veut, c'est être comme des dieux. C'est être comme des dieux. Et c'est là que bascule, dans le récit biblique, que bascule un peu le sort de l'humanité, puisque l'être humain, l'homme et la femme vont enfreindre l'interdit. Ils pensaient devenir comme des dieux, ils vont se découvrir nus, incapables de soutenir le regard de Dieu. Pire, je ne sais pas si c'est pire, mais incapables de soutenir le regard de l'autre, l'un de l'autre. Ça n'est fini de l'harmonie avec Dieu, ça n'est fini de l'harmonie entre l'homme et la femme. Et là, d'ailleurs, on voit même au chapitre 3, verset 16, on voit bien que la domination qui était apparue dans un premier texte, dans le premier récit, comme un élément positif, elle devient un élément négatif. Mais négatif pourquoi ? Parce que désormais, l'homme et la femme sont aux prises avec le désir de toute puissance, avec la convoitise, et que dans le monde de la convoitise, il n'y a plus finalement de relation pacifique possible. Vous avez cela au chapitre 3, verset 16. Voilà, c'est Dieu qui s'adresse à la femme. « Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Et lui dominera sur toi. On a là un élément négatif. Alors cet élément négatif, une forme de puissance ou de domination qui s'exerce contre, on va la retrouver ensuite par rapport à Caïn et Abel, avec le meurtre du frère. Voilà. On va la retrouver aussi d'une certaine façon dans le récit de la Genèse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qui me semble, c'est que les récits bibliques, quand ils évoquent la grandeur de l'être humain, comme on l'a vu ensemble, ils évoquent aussi, bien sûr, la liberté de l'être humain, et ils rendent compte de ce qui semble être une constante, à savoir cette incapacité de l'être humain à consentir à son statut de créature. Cette incapacité de l'être humain à se réjouir de ce que Dieu a fait de lui, à ce que Dieu a fait pour lui, et une incapacité qui débouche sur un vouloir être comme Dieu. Vouloir être comme Dieu. On est à l'opposé, si vous voulez, c'est le titre que j'avais donné à mon livre, et je dois dire que l'éditeur ne voulait absolument pas de ce titre, qui me dit « c'est pas du tout vendable ». Mais on n'est pas un peu moindre qu'un Dieu. Vous connaissez un peu moindre qu'un Dieu. C'est le psaume 8. Le psaume 8, vous avez le psalmiste qui chante, qui s'émerveille. Il s'émerveille devant ce que Dieu a fait pour lui. Et on pourrait dire de ce que Dieu... Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom par toute la terre... Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Quand je contemple le ciel, quand je contemple, je me dis, mais qu'est-ce que je suis pour que tu penses à moi ? Le fils de l'homme, pour que tu en prennes souci, tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. C'est l'émerveillement du psalmiste. On n'est pas dans vouloir être comme Dieu, on est dans la louange. Qui suis-je, moi, pour que tu m'aies fait, pour que tu penses à moi, pour que tu m'aies fait un peu moindre qu'un Dieu, pour que tu aies... Voilà. Tu m'es établi sur les œuvres de tes mains. Ce n'est pas mes œuvres à moi, sur les œuvres de tes mains. Et il me semble qu'il y a là, puisqu'il s'agit de conditions humaines, il y a là le grand dilemme qui traverse l'histoire de la Bible, mais peut-être l'histoire de l'humanité. Je me reconnais image et ressemblance de Dieu. Dans le Christ, il faudrait dire « je me reconnais fils dans le Fils ». Fils dans le Fils. Et je loue le Seigneur. Et je loue le Seigneur en consentant à mon statut de créature, d'une certaine manière à ma finitude, en l'acceptant comme une dimension essentielle, mais une dimension essentielle que je vais vivre à la lumière aussi de ce constat. Voilà. Que pour Dieu, je suis unique pour Dieu. Voilà. Que j'ai du prix à ses yeux, même si je ne suis pas tout-puissant. Ou bien, je veux être tout-puissant. Et là, je me laisse prendre au piège de la toute-puissance, je me laisse prendre au piège du serpent, voilà, qui fait miroiter ce Dieu tout-puissant, ce Dieu mesquin, ce Dieu jaloux de son pouvoir. Je me laisse prendre aussi au jeu du serpent qui va mettre le doigt sur ce qui me manque, et c'est ce qui me manque qui deviendra le point fondamental de ma vie, parce que c'est ça qui va, du coup, occulter tout le reste. Et je voudrais être comme Dieu. Il me semble que c'est là que se situe le dilemme de la vie, le dilemme de l'existence humaine.
Un peu moindre qu'un Dieu, Bible et conditions humaines, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Mgr Pierre de Berger, recteur émérite de l'Institut catholique de Toulouse, conférence enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le 12 avril 2014, conférence au cours de laquelle Mgr Pierre de Berger présentait son ouvrage paru aux éditions Bayard. La seconde et dernière partie de la conférence de Mgr Pierre de Berger sera diffusée sur notre antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.